Le juif imaginaire, fictif, que fabrique l'antisémite, n'a que peu de rapport avec les juifs réels, et c'est un des enjeux du livre que Pierre Savy et Lisa Vapnay publient aux éditions du Seuil, « Brève histoire des croyances et des préjugés antisémites », que d'enquêter sur la logique de ces croyances et de ces préjugés qui composent le grand récit de l'hostilité envers les juifs. Chapitre après chapitre, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, il retrace la généalogie de quelques grands motifs. Le séparatisme supposé des juifs, le peuple déicide d'abord, comploteur ensuite, l'éternel étranger, l'empoisonneur ou le traître, voilà quelques-unes de ces représentations qui traversent les siècles. Pierre Savy est historien, médiéviste, spécialiste des communautés juives d'Italie. Il est notamment le maître d'œuvre de l'Histoire des Juifs, paru au PUF. Lisa Vapnay est docteur en sciences politiques, spécialiste du monde juif d'Europe orientale. Ensemble, ils font apparaître dans leur livre comment les préjugés antisémites ne forment pas un système cohérent, mais un répertoire de contradictions. Les juifs y sont tour à tour séparés et infiltrés, faibles et tout-puissants, victimes passives et bourreaux, objets de haine et parfois d'une admiration qu'on pourrait dire empoisonné. Alors, ce que le livre met notamment en lumière, c'est cette plasticité et la capacité de motifs très anciens à produire du sens, de la peur et de la haine, et parfois du passage à l'acte dans des contextes radicalement différents au cours de l'histoire. Alors, ce faisant, il pose la question de ce qu'une société fait lorsqu'elle invente, reconduit, transforme une figure imaginaire et honnie du juif, car l'antisémitisme ne dit pas seulement quelque chose des juifs, il dit quelque chose du monde social qui le produit. Alors bonjour Lisa Vapnay, bonjour Pierre Savy, merci beaucoup d'être là pour parler de ce livre qui vient de sortir aux éditions du Seuil, « Bref, histoire des croyances et préjugés antisémites ». Alors, c'est bien le titre du livre, et non pas « Brève histoire de l'antisémitisme ». Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous insistez très tôt dans votre livre sur cette différence. Est-ce que vous pouvez commencer justement par nous expliquer comment vous concevez cette différence et pourquoi c'était si important de distinguer une histoire de l'antisémitisme d'un côté et une histoire des croyances et des préjugés antisémites de l'autre?
Pour nous, c'était important. On fait une petite blague au début en expliquant que cette histoire de l'antisémitisme, elle existe déjà, elle a déjà été écrite par Léon Poliakov. C'est un historien d'une autre époque et d'un autre calibre, en tout cas. C'est quelqu'un qui était capable, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, dans son livre, de faire le long récit des préjugés, des croyances, des persécutions, des discriminations. Et nous, on avait envie, enfin, on pensait que c'était utile de distinguer, enfin, de prendre juste les préjugés et les croyances et de les repenser ensemble.
Et de les classer aussi. Comment vous avez établi la carte, on pourrait dire, de ces préjugés et croyances qui se distribuent sous 10 chapitres, hein. Et d'ailleurs, il faut aussi que je vous demande, parce que vous insistez aussi d'emblée là-dessus, vous distinguez préjugés et croyances.
Oui, alors la dizaine de chapitres, ça a été un gros travail préalable à la rédaction qui nous a à la fois beaucoup occupés et intéressés, parce qu'il est évident qu'on pourrait faire un catalogue qui n'en finirait plus. Mmh. On n'a pas voulu arriver à un degré de détail tel qu'on fasse un chapitre sur tel et tel et tel aspect du corps, le nez, le prépuce, les menstruations. Non, on a voulu quand même regrouper des thèmes qui soient thématiques, mais qui s'ordonnent quand même un peu dans le temps et dans la logique, qui soient de gros thèmes. C'est un livre qui n'est pas illustré et qui ne fait pas un catalogue de ces préjugés. Et c'est ainsi qu'on a créé ces chapitres qui sont un peu déséquilibrés chronologiquement. Quand on parle de déicide, on parle plus de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Quand on parle du complot ou de la question du sionisme, évidemment, on est sur des siècles plus contemporains. Et alors, pour ce qui est des croyances, ben, c'est venu après, en fait, hein, je dois l'avouer. Enfin, on a quand même considéré que certaines des choses dont on voulait parler n'étaient pas attrapées par le mot de préjugé. Et le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui du déicide. Donc, je rappelle que c'est l'idée selon laquelle tous les Juifs, non seulement en tout lieu à l'époque de la mise à mort de Jésus, mais même de tout temps, sont coupables de la mise à mort de Jésus, qui est Dieu, selon les chrétiens, donc c'est un déicide, eh bien, ce n'est pas un préjugé. C'est une croyance qui est fausse pour plein de raisons et qui est rejetée par l'Église catholique, mais qui n'est pas un préjugé. Et donc, on a trouvé que le mot de croyance était nécessaire pour désigner vraiment tout ce qui ressortait des opinions antisémites, de ces préjugés, croyances, stéréotypes. Il y aurait d'autres mots qui ne seraient pas forcément à rejeter, et pas des persécutions réelles, parce que l'antisémitisme, c'est ça.
Alors, chaque chapitre, les chapitres ne s'organisent pas de manière chronologique. Je veux dire par là que les 10 chapitres n'offrent pas une courbe historique qui irait de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors, évidemment, il y a des chapitres qui s'attardent plus précisément à des moments, à des époques, il y a évidemment des dates, il y a des césures. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à l'intérieur de chaque chapitre, il y a des motifs qui peuvent se retrouver dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais que l'un des fils du livre, c'est précisément la très longue durée. Et j'ai envie de vous poser cette question qui renvoie aussi au choix du mot antisémitisme. Qu'est-ce qu'on comprend mieux, en fait, des croyances et des préjugés antisémites quand on les suit depuis l'Antiquité, justement ? Parce que le mot antisémite est un mot du 19e siècle. Hein, et qu'est-ce qui ne se cadre plus si on commençait au 19e et au 20e ? Pourquoi le choix de cette très longue durée ?
Parce que il nous semble que dire qu'il y aurait eu un temps de l'antijudaïsme, et puis au moment où, au XIXe siècle, où le mot antisémitisme apparaît, serait devenu le temps de l'antisémitisme, déjà, c'est vraiment une césure qui n'est pas du tout pertinente, parce que, même si on peut considérer que la dimension antisémite, elle apparaît au XVe siècle, finalement, c'est... Les choses sont beaucoup plus plastiques, c'est beaucoup plus flou. Il y a longtemps une superposition, pendant de longs siècles, entre des dimensions, disons, raciales et des dimensions d'hostilité plus religieuse, avec une matrice plus religieuse.
Mmh. Ouais. Et puis, ce qu'apporte la longue durée, c'est-à-dire la genèse. Alors, les siècles lointains ne sont plus présents, par définition, le passé, c'est du passé. Toutefois, par certaines formes linguistiques, picturales, plus ou moins conscientes, hein, d'ailleurs, chez les acteurs du contemporain, il y a certaines formes d'antisémitisme qui sont présentes, qui sont réactivables. Et donc, exclure certains thèmes anciens au motif seulement qu'ils sont anciens, d'abord, ça nous empêchait de comprendre comment s'était formé l'arsenal antisémite contemporain, qui est celui, pas forcément qui nous intéresse le plus, mais qui nous touche et nous effraie le plus, et en tout cas qui est le nôtre, qu'on rejette, mais qui est celui dans lequel on vit et auquel on se confronte. Et puis, ça nous empêchait aussi de comprendre comment parfois des choses extrêmement anciennes et surprenantes sont réactivées. Alors, je vais encore donner l'exemple du déicide, mais je vous promets que je donnerai d'autres exemples ensuite. Mais voilà, on trouve aujourd'hui l'emploi de cette accusation du meurtre de figures sacrées ou intouchables par les Juifs qui nous renvoie en des temps très, très anciens.
Ouais, justement, on va continuer à parler du déicide parce que ça mène à une question. Vous montrez que l'accusation de déicide, qui est officiellement abandonnée depuis Vatican II, hein, continue à produire des effets aujourd'hui, hein, dans des contextes qui sont entièrement sécularisés. Alors, on peut penser à la Pietà palestinienne, des choses comme ça. Alors, autrement dit, la frontière entre antisémitisme et antijudaïsme, elle est pas étanche, hein, disons-le aussi comme ça. Mais en fait, moi, ce qui m'a troublé, et ce qui est intéressant, c'est comment comprendre que des schèmes théologiques religieux continue à agir dans des sociétés modernes, sécularisées.
Peut-être, j'aimerais dire que même ceux qui aujourd'hui ne croient pas en l'idée d'un peuple déicide, beaucoup, pourtant, ignorent quelle a été l'histoire ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est ça, enfin, je trouve ça assez passionnant de voir, à travers la figure de Judas, mais ou à travers la figure, en tout cas, des Juifs qui auraient mis à mort Jésus, que même ceux qui n'adhèrent pas à cette idée pensent quand même un tout petit peu en arrière-plan que c'est comme ça que ça s'est passé. Et qu'on n'est plus dans une idéologie comme ça a pu être le cas avant Vatican II ou une idée qui a été dite et redite en chair à l'Église, mais que ça laisse des traces. Ça laisse des traces chez les plus athées. On a eu un exemple récemment, même ceux qui ne... Même ceux qui n'y croient pas, y croient encore.
Vous faites allusion à Mélenchon qui a fait une allusion directe.
Le Christ aurait été tué par ses compatriotes.
Oui, c'est ça.
Et puis, bon, alors, certes, Vatican II, il faut rendre hommage à la déclaration Nostra Aetate de 1965. Officiellement, on fête ces jours-ci le 40e anniversaire de la visite de Jean-Paul II à la Grande Synagogue de Rome, mais 21 ans plus tôt, vous avez parfaitement bien fait de le rappeler, l'Église s'est éloignée. Enfin, l'Église n'a pas le monopole de la parole chrétienne ou crypto-chrétienne sur cette terre. Le film Passion, tourné aux États-Unis, qui a eu un énorme succès commercial, de Mel Gibson, il contribue à maintenir en vie, en fait, à réactiver. Et donc, c'est vrai qu'il y a une part de mystère, et je ne peux pas totalement répondre à votre question sur ce qui fait que ça marche encore, mmh. comme s'il y avait une sorte de résidu inconscient. J'ai du mal à souscrire à cette idée-là, mais je crois qu'il y a quelque chose un peu comme ça. En tout cas, ça marche encore. Ce sont des schèmes qui sont présents, qu'on a déjà vus, en voyant un tableau, il fut une magnifique, de la Vierge, représentée par Bellini, en voyant une crucifixion, en voyant Passion de Mel Gibson. Et donc, ce sont des schèmes qui sont encore mobilisables, à côté d'autres, hein, mais c'est très, très frappant.
Évidemment, on ne pourra pas rentrer dans chaque chapitre, chaque motif, d'autant plus qu'il se... on pourrait dire chacun se divise à l'intérieur en plusieurs motifs, hein, mais je voudrais quand même parler du premier chapitre parce qu'il me semble qu'il a une, il pose un motif qui est un peu structurel pour l'ensemble des préjugés et des croyances. C'est celui que vous avez, enfin, je crois que c'est vous, Pierre Savy, qui avez écrit ce chapitre sur le séparatisme. Les Juifs seraient à part, incapables d'entrer dans la communauté commune. En gros, c'est l'idée. Et dans une certaine mesure, l'histoire des préjugés et des croyances qui vont être développé dans les autres chapitres, on pourrait dire découlent tous de ce principe originaire, quoi. Cette incapacité à rentrer dans la communauté commune, l'accusation de séparatisme.
Oui, alors si on doit faire un palmarès, je dirais que le plus gros, le plus présent aujourd'hui, ce serait plutôt le préjugé de l'argent et de la puissance juive, mais le plus...
Je ne parlais pas de tant plus gros que de plus structurel.
Tout à fait, le plus inoxydable, ouais. Le plus structurel, structurant, c'est certainement celui-là. C'est pour ça qu'on a fait le premier chapitre là-dessus. Je l'ai écrit, mais enfin, on est co-auteur de tout le livre. Le séparatisme, parfois certains, y compris des auteurs antiques, parlent de misanthropie, d'haine du genre humain. Donc en grec, ça se dit misanthropie. Et c'est quelque chose de tout à fait frappant, parce que ça n'a pratiquement pas quitté la scène. Et c'est très structurant. Alors, autour de quoi, enfin, à partir de cela, qu'est-ce qu'on produit comme réflexion? Un des points centraux de la discussion, et je pense que c'est un point qu'il faut oser aborder, même s'il est un peu, il sent un peu le soufre, c'est de savoir quelle part ont les Juifs dans ce préjugé. Il ne s'agit pas de valider le préjugé, mais de se demander ce que les lois rituelles concernant le monothéisme, qui n'est pas le monopole des Juifs, mais qui est quand même un peu une invention, un peu seulement juive, et qui est en tout cas très fort dans l'identification des Juifs par eux-mêmes, ce qu'il fait aux autres religions anciennes qui sont polythéistes et très, très bienveillantes. On peut adopter, on peut préférer un dieu, c'est le propre de l'idolâtrie. Les lois rituelles sur la cacheroute, l'injonction d'endogamie, enfin, toutes ces choses-là sont au cœur de la réflexion. Donc, on essaie de ne pas esquiver cette réflexion et de montrer ce que ça a pu avoir de structurant. Et en effet, dans des contextes très différents, mais on retrouve ce que vous évoquiez tout à l'heure, le caractère un peu paradoxal et retournable. Certes, il y a cette misanthropie, mais elle peut conduire parfois à l'idée que ces Juifs vivent à part, mais c'est toujours en étant au cœur des sociétés où ils sont plongés, en y occupant une position prééminente de conseiller du prince, d'avoir trop de pouvoir, d'avoir trop d'argent, on l'a dit. Donc c'est très ambivalent. C'est pas le séparatisme dont on peut reprocher, que l'on peut reprocher à d'autres populations. Voilà, les populations roms sont l'objet d'un nombre infini et épouvantable de préjugés, mais qui ne renvoient pas premièrement à leur place imminente dans les médias ou dans la finance, si vous voulez. Pour les Juifs, il y a ce paradoxe, un séparatisme qui est d'autant plus insupportable qu'on leur reproche, et là c'est vraiment un préjugé antisémite, leur centralité dans les sociétés modernes, en tout cas.
Oui, mais là vous pointez une des choses qui est transversale dans beaucoup de chapitres, c'est, on pourrait dire, la réversibilité. Hein, ça, c'est encore aussi un fil fort du livre, c'est l'antisémitisme, ça ne forme pas une idéologie unitaire, un ensemble hétérogène, plastique, souvent contradictoire. C'est une logique assez déconcertante, d'ailleurs, et ça, vous le montrez vraiment presque dans chaque chapitre. Hein, oui. Chaque préjugé antisémite coexiste avec son contraire. Alors là, vous avez dit séparé, trop présent, visible, invisible, les Juifs sont à la fois plutocrates et bolcheviques, hyper virils et efféminés. C'est à l'infini qu'il y a cette structure-là. Comment on peut développer cette idée qu'un système, on pourrait dire presque incohérent, comme une espèce de logique folle, puisse être malgré tout aussi stable, efficace, constante? C'est étonnant, c'est vraiment au cœur du livre, ce thème.
Alors d'abord, c'est à moitié une plaisanterie, mais pour aller encore plus dans votre sens, il y a cette tension qui s'opère entre tous nos préjugés quasiment durant les 9 premiers chapitres, et puis cette tension est redoublée avec un 10e chapitre qui parle des préjugés positifs. Comme si d'une certaine façon, ils sont moins nombreux et ils font moins de mal, évidemment, mais il y avait aussi à l'égard des Juifs des préjugés négatifs, nombreux et aussi positifs. Et ça nous a un peu amusé de le constater et de l'étudier.
Non, on y reviendra sur ce chapitre, il est intéressant, original.
Mais par ailleurs, sur cette contradiction que vous dites, on la constate, elle conserve cette dimension très surprenante que vous dites, elle nous a frappé tout de suite. Il y a plein d'exemples, vous les avez donnés. peut-être que ça nous emmène sur la trace, enfin sur une idée qui serait celle qu'il y a quelque chose qui préexiste au préjugé. C'est-à-dire que cette hostilité qu'on exprime, elle peut aller dans un sens ou dans l'autre, plutocrate ou bolchevique, hein, pour prendre un exemple que vous avez donné parmi de nombreux autres exemples possibles. Mais c'est donc que, je ne veux pas dire on les hait toujours déjà, parce que ça c'est quand même trop peu dans l'histoire. Mais il y a manifestement une hostilité qui vient peut-être de cette misanthropie, de ce séparatisme, de cette singularité opiniâtre, et qui suscite ensuite ce qui est l'objet de notre livre, c'est-à-dire des préjugés des croyances antisémites.
On ne pourrait pas dire aussi que, les Juifs s'offrent toujours pour l'antisémite comme une ressource sur laquelle va être projeté son souci du moment ou sa peur du moment. Ça peut être le plutocrate à un moment ou le capitaliste à un moment et puis le bolchevique à un autre moment. C'est cette idée du Juif comme ressource pour l'imaginaire social qui transparaît aussi.
Ça, c'est sûr. Mais alors, répondre oui à votre proposition, ça suppose de répondre à la question « Pourquoi les Juifs ?» qui fait quoi une blague pas très drôle, qui est donc une blague juive, et qui pose cette question « Pourquoi les Juifs ?» si vous voulez. Alors, spécifiquement, à l'époque médiévale, il y a un grand historien canadien qui s'appelle Langmuir qui a dit cela, hein, qui a dit que beaucoup de ces préjugés antisémites exprimaient en fait comme une volonté d'affirmer, de verrouiller en quelque sorte toute discussion, de clore toute discussion, les doutes des chrétiens sur un certain nombre de mystères, l'incarnation, c'est quand même compliqué que l'éternel tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, s'incarne en un homme mortel de surcroît, la virginité de la Vierge, la transsubstantiation, comme un bout de pain, une matzah, deviendrait le corps du Christ. Donc tous ces doutes que le christianisme ressent et avec lesquels il doit composer, c'est ça être chrétien, et pourquoi pas, eh bien, sont en quelque sorte réglés en partie par les préjugés antisémites, en affirmant très clairement comme une sorte de postulat que la vérité est du côté de la parole chrétienne et que donc tous ces doutes liés au mystère du christianisme, si vous voulez, sont ainsi réglés par l'affirmation d'une parole antisémite. Ça ne marche pas pour toute l'histoire, mais ça peut constituer un élément de réponse. Mais sinon, pourquoi les Juifs? Oui, c'est pas cette question.
On y reviendra aussi sur ça, sur cette question-là. On voit bien que prendre la longue durée, hein, c'est s'interroger sur des continuités, sur des discontinuités. Enfin bon. Vous avez tout à l'heure évoqué le chapitre sur l'argent comme étant celui qui traitait du motif peut-être le plus massif aujourd'hui, hein, les Juifs et l'argent. Pourquoi je dis que ça a à voir avec cette question de continuité, discontinuité, parce que là, pour le coup, et ça m'a étonné en fait, c'est d'apprendre que en fait, ça arrive assez tardivement dans l'histoire, ce moment où les Juifs sont pointés dans leur rapport à l'argent.
Absolument. Alors, assez tardivement, moi, que je suis médiéviste, donc je suis d'accord avec vous, c'est il n'y a que 800 ans. Hein. Donc, c'est pas tout à fait hier.
Ouais, mais le livre parle de...
Mais tout à fait, comme on commence...
On remonte bien avant le christianisme.
Un peu avant le christianisme, voilà. Et en tout cas, il y a environ 2000 ans, ça veut dire quand même qu'il y a eu de longs siècles durant lesquels ce préjugé n'existait, pour ainsi dire pas. Alors, on a rétroprojeté sur la figure de Judas, par exemple, hein, qui trahit Jésus, un certain nombre de préjugés liés à l'argent. Et donc, on a du coup un peu rebalancé dans le passé ce préjugé. Mais en effet, il apparaît au Moyen-Âge central, comme on dit au milieu du Moyen-Âge, en raison de macro-phénomènes d'histoire économique, hein, qui font que l'Occident a besoin de numéraire, que le prêt de l'argent à l'intérêt, c'est mal vu dans la Bible, et que dans ces conditions-là, ce besoin criant qui est exprimé, y compris par des institutions ecclésiastiques, il gêne profondément les autorités ecclésiastiques, notamment le pape. Et donc des conciles vont progressivement tout à la fois essayer de modérer les usures, donc les intérêts prélevés par les Juifs, mais diriger, c'est quelque chose d'assez bien connu ça, les Juifs dans ces métiers d'argent. Il y aura toujours plein de prêteurs non-juifs, hein, attention, et il y aura toujours plein de Juifs qui ne font pas le métier de prêteur, mais il est vrai qu'il y a une spécialisation qui s'ancre historiquement, donc au XIIe, XIIIe siècle, qui les éloigne aussi de la propriété foncière. Il n'y a pas de date, mais il y a un moment où les Juifs, c'est une légende que Rachi était vigneron, mais c'est vrai qu'on trouve des Juifs qui travaillent la terre en France, hein, au Xe, au XIe siècle. Ben, au XVIe siècle, il faut les chercher, quoi. D'abord, ils ont été expulsés, mais les peu qui restent sur les pourtours du royaume, au XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, ne sont plus dans des activités foncières. D'où les thèmes du parasitisme, de la nécessité de les régénérer au XVIIIe siècle, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très ancré historiquement, et c'est un peu étonnant. En effet, nous, en racontant cette histoire, on a aperçu que ça pouvait surprendre. Ça ne remonte pas à l'Antiquité.
Et d'ailleurs, il y a d'autres motifs qui vous viendraient comme ça, qui apparaissent, on pourrait dire, tardivement.
La question de la puissance politique et militaire, par définition, elle s'est sacrément estompée quand la Judée a perdu sa souveraineté. Alors, ce n'est pas une histoire si simple que ça, mais enfin, avec l'Antiquité romaine, quoi, la destruction du Temple, hein, si on veut prendre l'année 70 du 1er siècle de notre ère, donc il y a 2000 ans. Et puis, cette souveraineté juive, elle est réapparue de façon spectaculaire en 1948.
La question du corps, elle est presque concomitante de la question du juif financier, puisqu'elle date, disons, du XIIIe siècle. Mais toutefois, il y a le phéotor iudaicus, le fait que les juifs auraient une odeur particulière, c'est un préjugé antique.
Vous avez fait, je crois que c'est vous, Pierre Savy, tout à l'heure, à allusion au préjugé, disons, positif. Hein, et vous consacrez effectivement un chapitre à cette question-là. Alors effectivement, il y a la question du philosémitisme, pour le dire autrement, avec l'idée qu'on admire les juifs, là, très positivement, parce que, je ne sais pas, ils sont plus intelligents, on compte le nombre des prix Nobel, la grande école russe ou de piano et de violon, ils sont majoritaires à 90% des juifs, bon, bref. Donc ça suscite de l'admiration. Ce philosémitisme, vous le traitez, vous en montrez aussi l'ambiguïté. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, antisémitisme, philosémitisme, en fait, le philosémitisme serait, c'est juste l'inversion du vecteur, du positif, du négatif au positif, mais que c'est la même manière de différencier et d'organiser une fiction sur le juif réel.
Ben, en toute rigueur, oui. Toutefois, moi, j'essaie quand même dans ce chapitre de distinguer.
Évidemment, les conséquences ne sont pas les mêmes.
Alors, bon, bien sûr, on peut distinguer par les conséquences. Tout à fait. Non, vous avez raison de le souligner, parce que notre livre évite la question, on l'a dit tout à l'heure, des persécutions réelles et des massacres et des millions de morts. Mais cette question, elle nous préoccupe évidemment.
Lévite, c'est quand même. Je veux dire, là,
pardon. C'est pas un livre sur la Shoah. Quoi.
Non, c'est pas un livre sur la Shoah, mais il y a des chapitres qui prennent en compte la question de l'antisémitisme après la Shoah.
Non, tout à fait.
Mais les préjugés positifs ont cela de bon qu'ils n'ont, a priori, si on réfléchit bien, ne causé aucune mort et aucun crime.
Et du coup, là, l'idée, c'est de considérer qu'en toute rigueur, oui, il pose ce problème. Toutefois, voilà, on a le droit d'aimer une culture. Quand un non-juif nous dit qu'il adore la littérature yiddish ou le cinéma israélien, il n'y a rien de mal à ça. C'est quand on passe à un degré plus général, ce qu'on appelle en sociologie une sorte de naturalisation, de considérer qu'il est dans la nature des hommes et des femmes qui appartiennent au peuple juif, d'avoir des dispositions bonne ou mauvaise, que là, ça devient un problème. Parce qu'on ne croit pas à ça, on ne croit pas qu'il y ait une génétique qui détermine des... Il n'y a pas de prédisposition culturelle. Il y a l'histoire qui crée, et ça, il ne faut pas le nier. Notre livre s'efforce vraiment toujours de reconnaître qu'il y a des choses. Il y a l'histoire qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de grands violonistes juifs, ça ne veut pas dire que tous le sont, comme il y a beaucoup de jazzmen qui sont noirs, pour des raisons historiques, tout à fait identifiables. C'est une musique qui naît en Amérique, avec des influences liées aux origines des esclaves, aux églises où on chante du spirituel, etc. Donc, voilà, ces qualités-là, elles se répartissent de façon inégale dans l'espace social, et c'est normal, elles ne sont pas naturelles. Et quand le philosémitisme, qui est plutôt sympathique, on peut quand même le dire, a priori, débouche sur une sorte d'essence juive, fût-elle positive, ça nous paraît dangereux.
C'est plutôt sympathique, mais parfois ça peut produire un malaise qu'il faut aussi reconnaître, hein, et qu'il faut savoir nommer. D'autant plus qu'il peut y avoir, le philosémitisme peut s'arc-bouter à une manière de vouloir instrumentaliser la cause juive pour d'autres causes beaucoup moins nobles. Donc je suis assez d'accord avec cette question de l'ambiguïté fondamentale du philosémitisme. Peut-être je modérerais sur la question du est-ce que c'est toujours sympathique, quoi.
Non, ça n'est pas toujours.
Le philosémitisme
chrétien.
Voilà, j'allais en parler.
Parce
que vous en parlez dans le livre, le philosémitisme des évangélistes chrétiens qui sont par ailleurs. Enfin, on a l'impression que se superpose un antisémitisme et un philosémitisme là très clairement dans certains discours évangéliques.
Ce qu'ils attendent en dernière année, c'est quand même la conversion.
Exactement.
Et sinon, et voilà, donc ça c'est très problématique. Mais en revanche, le philosémitisme
de
Vatican II qui abandonne l'enseignement du mépris, ça on peut trouver.
Bien sûr.
Ou le rappel par certains chrétiens ou musulmans de ce qu'ont en commun ces traditions religieuses. Voilà, on y adhère ou pas, on s'implique ou non dans les amitiés judéo-chrétiennes, mais c'est quand même des choses positives.
Votre livre, il sort évidemment après le 7 octobre, c'est-à-dire dans un moment historique très particulier pour l'ensemble des Juifs du monde, hein, que ce soit en Israël, mais aussi en diaspora. On peut dire qu'on vit un grand moment antisémite. Enfin, je ne sais pas si vous le diriez comme ça, mais moi, il me semble qu'on peut dire qu'on vit un grand moment antisémite, avec cette caractéristique précisément que beaucoup d'antisémites, beaucoup de ce qu'on peut recevoir quand on est juif comme une violence symbolique antisémite, ou d'ailleurs réelle, effective, ne sont pas perçus par ceux qui émettent cela comme étant antisémite. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans cette situation un peu, je crois, inédite dans l'histoire, où des gens qui s'autoproclament comme étant des militants antiracistes et combattants à ce titre l'antisémitisme, diffusent en même temps un énoncé antisémite. Donc,
c'est peut-être un peu pour ça qu'on s'est éloigné de tout propos qualifiant des gens. Et qu'on a vraiment voulu travailler sur les discours. Parce qu'en effet, il y a des porteurs de discours antisémites, lesquels discours nous intéressent dans ce livre, qui seraient horrifiés de s'entendre décrits comme antisémites. Alors j'y venais, je pensais aux très contemporains, vous évoquez le 7 octobre, peut-être qu'on peut remonter jusqu'au début du 21e siècle et la deuxième intifada, mais il y a effectivement une séquence, comme on dit aujourd'hui, qui est assez préoccupante. Et moi, je pensais à Gaza. Et il me semble que le fait que la Shoah ait eu lieu soit quand même un phénomène dont les Juifs ont été les victimes, puisse être utilisé et puisse polluer un peu la réflexion sur ce qui est en train de se passer à Gaza, avec l'emploi des termes de génocide, avec la comparaison avec le nazisme, qui obscurcissent plutôt qu'ils n'éclaircissent la compréhension de cette situation, qui est une situation dramatique. Ça me paraît, d'une certaine façon, une manifestation de l'antisémitisme secondaire, enfin, une espèce de pollution du contemporain et des drames qui se jouent dans le contemporain par la Shoah. Donc les Juifs ayant été victimes de la Shoah, qui a quand même réussi, enfin je veux dire, voilà, la présence juive en Europe, elle est quand même résiduelle, le mot est cruel, mais enfin, elle n'est pas ce qu'elle était. Et en outre, elle vaut désormais aux Juifs présents sur cette terre d'être parfois accusés un peu vite par une espèce de compensation, enfin de jouissance dans l'accusation formulée à leur égard. Ce sont des génocidaires, ce sont des nazis.
Mais je pense qu'un des partis pris du livre, c'est aussi de considérer que certaines personnes, pas toutes, utilisent des termes qui peuvent paraître extrêmement choquants quand on a une sensibilité à la question, mais qui le font en toute bonne foi.
Non, mais c'est,
et donc on s'adresse aussi à eux.
C'est précisément la question que je posais tout à l'heure, d'essayer de comprendre cette coïncidence dans la même, pas dans la même personne, mais dans le même discours, d'une certitude d'être du bon côté de la lutte antiraciste, anti-antisémite, et en même temps diffuser des clichés, des stéréotypes, des préjugés, des croyances, et quelque chose qui peut renvoyer à une sorte d'empoisonnement antisémite. C'est quelque chose de très très particulier à notre époque,
il me
semble.
Peut-être que justement le fait quand on décorrèle l'antisémitisme du racisme, pour ces militants antiracistes, ils ne voient plus en quoi avoir un préjugé antisémite, c'est la même chose qu'un préjugé raciste. Ils ne voient peut-être que leur rappeler qu'ils sont antiracistes de façade, mais qu'en eux, il y a des préjugés racistes. Peut-être que ce rappel serait un juste rappel.
Moi, il me semble qu'on ne cesse de le faire, ce rappel, mais que ce rappel n'a cessé d'être fait depuis de nombreuses années. On pourrait dire à bas bruit pendant longtemps, et depuis le 7 octobre, il y a vraiment un discours public juif pour le rappeler en permanence et de montrer qu'au sein du mouvement antiraciste, des propos très problématiques se posent, mais ce rappel tombe dans le vide, en fait. Il me semble. Et d'ailleurs, ça me conduit à vous poser cette question avec laquelle, là, pour le coup, on peut discuter de manière plus tendue sur la nécessité que vous exprimez très vite dans le livre de conjoindre la lutte antiraciste avec la lutte anti-antisémite, enfin, de dire l'antisémitisme est inclus dans le racisme.
C'est un racisme, en tout cas.
C'est un racisme. Alors, il est évident qu'il y a des points de recouvrement, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Et dans une certaine mesure, à mes yeux, votre livre le prouve, quoi. Sans cesse, une singularité absolue de la position juive et de l'hostilité anti-juive qui fait que ça échappe aussi à ce que la critique du racisme peut avoir à dire.
Peut-être que l'introduction permettait de rappeler... Enfin, le titre du livre, c'est « Croyances et préjugés antisémites ». On ne l'a pas appelé « Préjugés, croyances racistes ». C'est donc, je crois, qu'on accepte la spécificité et qu'il y a une histoire avec sa longue durée, avec ses particularités, qui se distingue. Mais néanmoins, il y a des moments où ça se croise et on a eu besoin, en introduction, de le rappeler aujourd'hui.
C'est l'effet de la définition, quoi. Si on définit le racisme comme l'attribution à des individus de dispositions morales et psychologiques du fait de leur naissance, alors on a du mal à pas inclure l'antisémitisme dedans. Ce que votre proposition m'amène à envisager, c'est que finalement vous restaurez un peu l'antijudaïsme, c'est-à-dire nous, ce sur quoi on travaille, c'est vraiment l'hostilité aux personnes en tant que vraiment qu'elles sont ce qu'elles sont parce qu'elles sont nées de parents juifs, disons. Qu'il y ait autre chose que de l'antisémitisme raciste, qui soit une hostilité viscérale, obstinée et très mortifère, hein, je ne prétends pas que c'est dans le monde des idées et des chaires de théologie, au fait juif, c'est peut-être à ça que vous pensez. Alors oui, ça, effectivement, ça peut être quelque chose qui échappe au racisme, qui ne se réduit pas au racisme, ça j'en suis entièrement d'accord. Mais dès lors que nous, on a plutôt mis la focale sur la haine des hommes et des femmes réelles, même si ça passe par la construction d'un juif imaginaire, ouais. Alors on croit qu'on est dans du racisme, on croit que c'est efficace politiquement, mais aussi que c'est nécessaire en termes de définition d'inclure ça dans le racisme. Après quoi, notre travail, c'est de montrer les spécificités. Si il faut prendre quelques minutes pour le faire, mais on peut le faire. Enfin, la plasticité, que vous avez très bien dite, le caractère mortifère qui est effroyable, la longue durée, enfin voilà, il y a des spécificités très très fortes, bien sûr.
C'est aussi l'idée que cette exceptionnalité juive, elle est aussi un peu contre-productive. Mais là je pense que je le dis d'un point de vue un peu pédagogique, dans l'idée d'expliquer aux plus jeunes que l'antisémitisme ne... Enfin, que les juifs ne sont pas responsables de l'antisémitisme, que l'antisémitisme est à expliquer... Chez ceux qui haïssent et non chez les autres. Et ceux qui haïssent, ils ont la haine assez généreuse. Ils ont haï d'autres populations au fil du temps.
Ouais, je comprends. Je vais reformuler ma question un petit peu autrement. Il ne s'agit pas de défendre un exceptionnalisme juif, mais d'essayer d'être rigoureux historiquement pour cerner une singularité, hein. Qui est une singularité qui n'est pas, il n'y a aucun bénéfice à en tirer, c'est pas la question. Vous dites au début du livre, cette phrase que j'ai notée, ce n'est pas le peuple juif réel ou les juifs réels et les juifs réels qui intéressent l'antisémite. Et c'est vraiment l'idée propre même à l'angle du livre, hein, croyances, préjugés, effectivement, les croyances et les préjugés, ça produit quoi? Un juif imaginaire, une fiction. On en a parlé. Mais est-ce qu'il n'y a pas à considérer quand même une hostilité anti-juive qui vise le peuple juif réel dans son expérience concrète, dans sa singularité même? Je ne dis pas que l'antisémitisme la connaîtrait en profondeur, mais en tout cas, il y aurait une expérience, une histoire, une trajectoire dans l'histoire qui provoque du ressentiment, de l'hostilité, de la haine, et qui est complètement, pas soumise à cette fiction, hein, mais qui est soumise à un ressentiment bien ancré dans la visée d'une réalité, d'une réalité de ce qu'est le peuple juif et de son histoire et de sa trajectoire. Vous comprenez, enfin,
Oui, moi je crois que je comprends et je crois qu'en fait, alors j'essaie une synthèse audacieuse, mais il n'y a pas forcément de contradiction, c'est-à-dire qu'on peut d'une part considérer qu'on observe un certain nombre de transferts et de réutilisations de motifs hostiles à d'autres populations que les juifs, et considérer surtout que pour des raisons vraiment définitionnelles, l'antisémitisme est un racisme parce qu'il s'attaque à des dispositions transmises par la naissance, d'une part, et d'autre part, souscrire à votre proposition. Moi, je faisais allusion à l'antijudaïsme que vous ressuscitez. C'est quand même le titre d'un très important livre publié il y a une dizaine d'années par David Nirenberg, qui est un livre discutable, hein, parce qu'il est très, très transversal, et il pose quand même un peu le pilier de la tradition occidentale, c'est son sous-titre, la centralité de l'antijudaïsme, donc de l'hostilité au peuple réel, oui, mais sans beaucoup s'intéresser à ce que sont réellement et véritablement les juifs, mais au judaïsme. Et donc de ce, par là, en effet, l'antisémitisme excède, échappe au racisme. Ça, je suis d'accord. On peut considérer qu'il y a, dans un certain nombre de traits définissant ce que c'est que l'être juif à travers les siècles, quelque chose qui est insupportable. Et que ça, c'est propre à l'antisémitisme.
Je vous pose une dernière question. Le dernier mot du livre, c'est combattre. Je l'ai noté, je ne sais plus la phrase, mais espérons que connaître ses principaux motifs et les principales raisons de leur attrait, enfin, les préjugés, les croyances antisémites, puissent aider à mieux les combattre. On fait cet entretien, aujourd'hui, on l'enregistre une journée après le retrait d'une loi qui avait pour objectif de combattre les nouvelles formes d'antisémitisme. Alors évidemment, ça me permet de vous poser la question de la manière dont vous, en tant qu'historien, ayant écrit ce livre, ayant donc réfléchi à la manière avec laquelle l'histoire sur sa longue durée pouvait offrir les moyens de comprendre ce qui se passait dans le présent, comment vous avez vécu ce moment de très grande tension entre une loi proposée, l'ensemble d'une population qui pétitionne pour que cette loi soit retirée, et où au cœur de ce combat, en fait, personne ne sait comment, quoi, quelle forme donner au combat contre l'antisémitisme, qui prolifère pourtant.
Je ne sais pas si on a une solution. Nous, notre méthode a été d'écrire un
livre. Je ne vous demande pas, en fait, tant une solution que votre...
c'était un moment, ça a été un moment assez difficile, parce que si on peut être critique de la loi, on ne s'attendait pas à ce que la réaction à cette loi prenne la forme d'une pétition au terme discutable. Moi, j'ai pu voir circuler des choses qui m'ont heurté.
La loi Yadon est symptomatique.
Enfin, absolument, ce qui s'est passé, moi, c'est comme ça que je la lis également, comme un symptôme. J'avoue que j'ai appris avec un peu de soulagement qu'elle allait revenir, peut-être un peu améliorée, peut-être dans un contexte un peu moins tendu, enfin hyper tendu, avec cette pétition tout à fait invraisemblable. Je prétends pourtant pas que la loi Yadon était... Enfin, je suis pas juriste, je suis pas député, et il appartiendra aux députés de se prononcer, mais elle était sans doute imparfaite. Enfin, il y a certains aspects de cette loi qui étaient imparfaits. Toutefois, elle a été très calomniée. On a vite fait d'y voir une loi profondément liberticide, comme s'il allait être impossible de critiquer le gouvernement israélien, ce qui serait scandaleux, mais ce qui n'était pas prévu par cette loi. Quant aux modalités du combat, évidemment, c'est la grande question. On la pose sans savoir vraiment y répondre. Notre réponse, comme Lisa l'a dit, c'est d'écrire un livre. Et donc, plus généralement, de croire que la discussion, le dialogue maintenu, y compris avec des gens qui, dans le mouvement social antiraciste, sont sur la mauvaise pente, à notre avis, sont nécessaires, plutôt que de se cloisonner. Et puis, moi, je crois très, et j'assume de le dire, aussi à l'arsenal législatif et répressif. Enfin, on a ce soutien, espérons qu'après les échéances électorales proches ou lointaines, le soutien ferme et toujours plus ferme de l'État et des institutions demeurera, parce qu'il est important. Enfin, les lois mémorielles qui ont été prises il y a une trentaine d'années, elles étaient très discutables dans leurs principes, mais si on est sur une éthique de responsabilité, je crois qu'elles étaient assez bonnes. Et finalement, voilà, oui, la liberté d'expression, mais dans un cadre qui est celui de la protection des minorités. Et en l'occurrence, c'est ce que cette loi discutable voulait faire, protéger une minorité qui, comme vous l'avez très bien dit, vit un grand moment antisémite.
Bon, je vous remercie beaucoup, Pierre et Elisa. On aurait pu rentrer dans tant de chapitres, et on a été transversal, on a essayé de se promener à l'intérieur de ce livre, dont je rappelle le titre, Bref, Histoire des croyances et préjugés antisémites, qui est paru ces derniers jours au Seuil. Merci beaucoup, Elisa, merci beaucoup, Pierre.
Merci.